13. Le bois oiselé. Parmi la maladive exhalaison de parfums lourds et chauds, dont le poison, dahlia, lys, tulipe et renoncule, noyant mes sens, mon âme et ma raison, mêle dans une immense pâmoison le souvenir avec le crépuscule. Paul Verlaine. Au matin, le sire de Vaumacelle, accompagné du sire de Thèves et suivi de ses gens, franchit la porte de la tour Malestrue, et après avoir descendu la rampe qui longeait le Châtelet, s'engagea sur le deuxième pont jeté sur l'Andoune. Derrière les voyageurs, la masse fortifiée de verre noyait ses cimes dans une brume légère. Lorsqu'ils furent arrivés sur la rive, les cavaliers s'arrêtèrent un moment. Gawyr de Thèves fit alors ses adieux à Edan de Vaumacelle. « Je ne chercherai pas à vous détourner de votre tâche, » dit le chevalier de l'hôtel. « Mais je suis bien fâché qu'on vous ait envoyé à la cour du duc. Si madame la duchesse m'avait donné congé, j'aurais volontiers pris la route avec vous. Je vous en sais gré, mais il eût été inutile de vous exposer avec moi. Votre bras sera plus utile dans l'armée de Vert. Il me suffit de savoir que j'ai regagné l'amitié du chevalier qui m'avait suppléé au cours du procès de madame Odéarde. Gardez-vous de tous à la cour ducale. Bien que le connétable de Traval ne soit plus de ce monde, vous n'y manquerez point d'ennemis influents. La baronne de Brégor vous hait ouvertement. Ma chère cousine Parvulle de L'Aulnay l'appuiera dans toutes ses entreprises contre vous. Et n'oubliez pas que le mariage tchoudalien est en grande partie l'œuvre du chancelier Diatchekrimen. Le ministérial fera son possible pour provoquer votre perte. » Des dames et un clerc, releva Edan avec un rien d'ironie. Il y a de quoi trembler, en effet. Chacun à sa façon, la baronne et le chancelier, sont des puissances à la cour. Défiez-vous de leurs embûches. Hélas, je crains que mes conseils ne vous garantissent guère contre le sort qu'on vous réserve. Rassurez-vous, mon cher Thèves, je n'ai pas dit mon dernier mot. Le resplendissant vous entend, Edan. Dans la détresse que traverse le duché, Son Altesse Ganelon serait bien inspirée de sursoir aux poursuites contre vous et de vous envoyer combattre lourdement. Peut-être Monseigneur Lanval plaidera-t-il en ma faveur. Nous sommes convenus de nous entraider jusqu'au terme de la guerre, afin de pouvoir ensuite débattre d'une affaire privée à tête reposée. Ce serait une bonne chose pour vous, mais Lanval n'a pas l'oreille du duc comme peut l'avoir le chancelier. Ah, je suis bien mari qu'on vous fasse courir un risque si terrible. Je vais supplier instamment madame la duchesse et le seigneur de Vert afin que votre sauvegarde figure dans les conditions de paix. Les deux hommes échangèrent une dernière accolade, puis Edan de Vaumacelle et sa suite s'engagèrent sur la route qui traversait la nécropole. Le sire de Thèves adressa également un signe de tête à Nem, qui le lui rendit avec gratitude. Le vieil écuyer avait la mine sombre. S'il paraissait reconnaissant aux chevaliers de l'hôtel de leur avoir prodigué des marques d'amitié, il ne dissimulait ni la réprobation ni l'alarme que lui inspirait la mission de son seigneur. Le sire de Vaumacelle et ses gens remontèrent la même route que celle suivie la veille en compagnie de Méléagant. Le chevalier et son écuyer, en raison des territoires disputés qu'ils allaient traverser, c'étaient armés en guerre. Seul qu'elle portait son costume de voyage. Il traînait un peu en arrière, souvent à moitié retourné sur sa selle, à contempler d'un air boudeur les hautes tours qui s'accrochaient à un ciel bas. Le page jetait surtout des regards pleins de frustration au castel d'Ingremance et à ses mystères inexplorés. Son petit ronsin profitait de la distraction du cavalier pour flâner avec le cheval de bas, et le garçon laissait l'écart se creuser avec les adultes, les palefrois et les destriers. Il fallut que Nem rappelât le jouvenceau à l'ordre pour que celui-ci piquât des deux et rejoignît les adultes. Dans l'atmosphère matinale, ce petit trot résonna bruyamment sur le pavé enclavé entre les sépulcres. Du coin de l'œil, Le page entrevit alors du mouvement sous les porches de plusieurs tombeaux. De lourdes portes se refermaient en silence au passage des cavaliers.
« On dérange la prêtraille !»
lança l'impertinent sur un ton haut perché.
« Je croyais que ces oiseaux-là sortaient surtout de nuit. »
« Ces oiseaux-là sortent à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, pourvu qu'elles soient funèbres !»
grommela l'écuyer.
« Alors ça n'augure rien de bon pour nous !»
se dérida le freluquet. Le vieux valet d'armes lui jeta un regard peu amène, que l'impertinent fit semblant de ne pas avoir vu. Menem s'abstint de tenser cette insolence. Pour un peu, il aurait presque renchéri, encore que sur un autre ton. Le front barré par un pli soucieux, l'écuyer considéra son seigneur. Rentré au mi-temps de la nuit de son audience chez la duchesse, le chevalier avait aussitôt annoncé la mauvaise nouvelle. Il fallait se préparer dès le matin à reprendre la route vers les positions ducales. En des circonstances ordinaires, Nem se fût sans doute permis d'élever quelques objections, mais une inquiétude plus immédiate avait détourné son attention. Le sire de Vaumacel lui avait paru inexplicablement mal en point. Malgré la lumière assez chiche prodiguée par une chandelle, il était évident qu'il avait très mauvaise mine. Le teint crayeux, le nez pincé, l'œil fébrile. L'écuyer aurait juré que son seigneur venait de tomber malade, et il s'était dit que le départ serait probablement remis à quelques jours. Levé dès l'aube, le chevalier avait pourtant agi comme à l'ordinaire. Mais il manquait d'allant, et il avait toujours mauvais teint. Il avait constaté avec déplaisir que sa chemise était ensanglantée. Sa blessure, qui la veille encore paraissait parfaitement cicatrisée, s'était rouverte au cours de la nuit, et il avait fallu la panser à nouveau. Alors que Nem achevait de bander le torse de son seigneur, Kell avait poussé une exclamation de surprise. Puis il avait protesté par anticipation qu'il n'était pour rien dans ce qu'il venait de découvrir. Sortant le bouclier de sa housse, le jouvenceau le leur avait montré. Le sable avait envahi tous les quartiers de l'écu. L'ensemble de l'emblème était devenu noir, les trois épines sinoples disparaissant presque dans cet émail obscur. « Je comprends mieux ce signe », avait soupiré Edan. « Mais cet avertissement ne doit pas nous détourner de notre devoir. » Le château à peine quitté, ce présage prenait un tour encore plus sinistre au milieu de la nécropole. À mesure que les cavaliers remontaient la vaste allée bordée de monuments funéraires, Nem ne pouvait s'empêcher de laisser son attention flotter sur les armoiries qui ornaient les frontons. Bien qu'il se gardât d'en parler, il avait à l'esprit l'étrange anecdote naguère rapportée par l'ermite de Senante à propos d'un tombeau aux armes de Vaumacel. Le martyr qui avait frappé entre-temps le malheureux, prêtant une portée presque prophétique à son enseignement, contribuait à lui donner un tour funeste. Lorsque caveaux et chapelles commencèrent à s'espacer entre les arbres, l'écuyer éprouva un vague soulagement de n'avoir rien découvert qui ressembla aux épines du chevalier. Le sire de Vaumacel, quant à lui, se laissait porter par sa monture dans un état de rêverie mélancolique. Ses yeux glissaient sur le pavé de la route au rythme de la marche, comme tournés vers un spectacle intérieur. À la lumière du jour, il paraissait si pâle que Nem lui demanda à plusieurs reprises si sa blessure s'était remise à saigner. Une ou deux fois, le chevalier ne parut pas l'entendre. Et quand il répondait à son valet d'armes, c'était par des dénégations si distraites qu'elle n'avait rien de convaincant. Nem revenait donc à la charge, de plus en plus troublé de constater que son assistance ne provoquait ni agacement ni réponse ferme de son maître. Edan, l'esprit ailleurs, donnait le sentiment d'entendre à peine son écuyer. Il n'émergea de son engourdissement qu'au bout d'un certain temps, quand les voyageurs arrivèrent à l'endroit où, la veille, le seigneur de Verre leur avait fait essayer l'arme qui avait frappé sa mère. Le chevalier de Vaumacel arrêta alors ses compagnons et considéra avec une grande attention le bois qui les entourait. Son expression se fit dure, mais il ne livra rien du fond de sa pensée. Sans l'ombre d'une explication, il pressa les flancs de son cheval et reprit son chemin. Mais une détermination tranchante s'était substituée à son apathie, ce qui rassura à demi son écuyer. Au bout d'une lieue, Nem se mit à bavarder. Ce n'était guère dans les habitudes de voyage des trois compagnons, qui pouvaient abattre de longues étapes sans mot dire ou presque, mais le silence du sire de Vaumacel ce jour-là avait une densité inquiétante. En outre, son vieux serviteur, parce qu'il était loyal, avait scrupule à laisser son seigneur se jeter dans la gueule du loup sans tenter quoi que ce soit pour le retenir. Commençant par des considérations sur la petite cour de verre, l'écuyer regretta la querelle qui s'était élevée à l'impromptu entre Fitzurse du Havne et le chevalier Hopi. En déplorant la défection du dernier des aventureux du bois oiselé, il insinua qu'il était imprudent de gagner la cour ducale privée de cette alliance. « Nous avons trop perdu de temps à chercher ces pérégrins », éluda mollement Edan. Et cela pour en tirer peu de fruits. Il serait chimérique d'essayer de les regagner à notre cause. » Nem, qui partageait cet avis, n'essaya pas d'argumenter davantage. Encore qu'il ne crût guère lui-même que son seigneur eût pu s'attacher à nouveau l'aide des chevaliers oiselés, il avait caressé l'espoir que reprendre cette quête leur aurait offert un sursis salutaire. Il préféra user d'un autre angle d'attaque et jugea malvenu qu'on envoyât le chevalier de Vaumacel à la cour ducale avant même que fût portée une réponse au comte de Quimarc. N'eût-il pas mieux valu commencer par avertir le seigneur Anguzel des conditions réclamées par la duchesse? Edan, une fois de plus, balaya négligemment l'objection. La grande dame et le seigneur de Verre ne manquaient pas de messagers capables de gagner Neuvidine. En revanche, seul le chevalier de Vaumacel pouvait tout à la fois porter la proposition de la duchesse et la blanchir de toute accusation. Lorsque l'écuyer, à court de faux-semblants, finit par exprimer franchement son opinion et désapprouva une entreprise qu'il jugeait insensée, le chevalier se fit plus incisif. « Jusqu'alors, on m'a couvert d'infamie à tort », gronda-t-il. « Mais si je me détourne aujourd'hui, je serai frappé à bon droit de déshonneur. » Il n'était plus question de discuter quand on abordait ce terrain-là, et Nem se le tint pour dit. Toutefois, la réprobation restait peinte sur sa figure. Le regard moqueur que lui lança Kell ne fit rien pour adoucir son humeur. Il fallut une demi-journée aux trois voyageurs pour gagner l'orée septentrionale du bois de verre. La belle route pavée s'était transformée en simple voie charretière. Puis, les taillis avaient commencé à s'éclaircir, mités comme une fourrure que gagne la pelade. Les lisières ne formaient point une belle muraille de frondaison. La forêt souffreteuse s'émiettait plutôt en breuils et bosquets au milieu de varennes toutes ébouriffées de ronceraies. Il eût été facile de s'égarer dans cette friche si les cavaliers n'avaient pas retrouvé l'étang de la Bassière. Ils ne s'attardèrent pas sur ces tristes rives. Une pellicule de boue rougeâtre stagnait à la surface de ce large plan d'eau, au-dessus de laquelle vibrillonnaient des myriades de moustiques. Au débouché coulait silencieusement l'Andoune, qui reprenait son cours en direction de la vallée du Vernobre. Dans ce pays inculte, rempli de fourrés et de broussailles, chaque détour du chemin respirait le traquenard ou l'embûche. Et les trois cavaliers restèrent aux aguets. Ce ne fut que vers le milieu de l'après-midi qu'ils atteignirent des finages mieux entretenus. La vallée de l'Andoune se civilisait et s'habillait de vergers, de lopins et de quelques vignobles. La campagne y paraissait d'abord épargnée, car on se trouvait encore sur le fief de Verre. Mais nulle bête ne vaguait sur les prés, et les villages se claquemuraient à l'approche d'étrangers. surtout équipés en guerre. La défiance qui sourdait des campagnes s'accentua à l'approche du soir. Les premiers signes d'abandon apparurent au milieu des cultures. Les hautes herbes prospéraient dans des communaux que ne paissaient plus les troupeaux. Les blés encore verts avaient été couchés çà et là par des reposés d'animaux sauvages. Des charrettes dételées barraient parfois le passage de leurs brancards. Dans des hameaux silencieux, le chien-dent envahissait les potagers. Volailles et cochons avaient déserté les cours de ferme. Des portes enfoncées et parfois les décombres carbonisés d'une chaumière témoignaient de récents pillages. Ces stigmates étaient plus clairsemés que les ravages exercés par les ouromans dans la Bréquesan, mais ils suffisaient à donner une impression pénible, celle de se risquer en une contrée où le brigandage faisait loi. Après avoir vidé les hautes terres d'Agurande, la lèpre des guerres privées finissait par nécroser les pays de plaine. Ce climat inquiétant, s'il requérait la vigilance des trois compagnons, ne les affectait guère. Qu'ils eussent servi sous la bannière du comte de Quimarc, du comte de Brocmel, ou sous le manteau de l'ordre du Sacre, ils avaient souvent traversé des marches hantées par la maraude et le crime. Rester aux aguets n'était qu'un jeu de plus pour Kell, tandis que Nem craignait davantage d'arriver à destination que de tomber sur une bande de soudards sans feu ni lieu. Le chevalier, quant à lui, considérait d'un air impavide ce paysage à l'abandon. Peu à peu, à mesure que passait le jour, il était retombé dans une rêverie sombre. Au soir, ils trouvèrent refuge dans un petit prieuré de la Douce Dame, déserté à cause des troubles. Le cellier, l'apothicairerie et la modeste nef du sanctuaire avaient été laissés sans dessus-dessous par des pillards. Mais les voyageurs n'y trouvèrent aucun signe d'effusion de sang. Ils installèrent leurs chevaux dans la chapelle et se logèrent dans la minuscule infirmerie. Il n'y eut nulle alerte au cours de la nuit. Kell disparut un moment à la brune, puis revint du verger voisin en prétendant avoir poursuivi le charivari fait par une pie et un jet, mais son aumônière débordait de cerises pas très mûres, et le chapardage parut être sa principale motivation. Le lendemain, la route fut plus pénible. Le temps était à la fois lourd et gris. Des ondées sporadiques balayaient de loin en loin les campagnes sans vraiment les rafraîchir. La rivière, les étangs et les haies qui délimitaient les lopins fumaient de vagues buées de chaleur. La robe des chevaux formait des épis détrempés. L'étoffe des cottes et des aumus bavait sur les armures. Sanglés dans gambison et arnois ou brigandine, Eddan et Nem transpiraient d'abondance. Au terme de cette étape, ils avaient espéré atteindre le château du Trèfle. Mais l'Andoune n'en finissait pas de dérouler ses méandres sans révéler une place forte. Elle ne découvrait que fermes pillées, moulins vandalisés, hameaux mis à sac. Plus les voyageurs descendaient vers l'aval, plus se multipliaient les destructions. Des relents sirupeux faisandaient parfois au coin d'une chaumière ou derrière une clôture, trahissant la présence de cadavres occupés à se fondre dans la boue. Vers le milieu de l'après-midi, des nuages menaçants roulèrent leurs panses sombres au-dessus de la vallée et finirent par crever. Ils déversèrent sur le pays un déluge rageur, balayé de rafales, qui brouilla les distances dans un ondoiement dense de gouttes et de grésil. Cinglés par la pluie, n'y voyant plus à 100 pas, les trois voyageurs crurent trouver refuge dans un hameau dont les bâtiments se dessinèrent confusément sur leur route. Un comité d'accueil sinistre les y attendait. Tout le village avait été pendu aux arbres et aux charpentes. Vieillards, hommes, femmes, enfants, et même un chien, se trouvaient hissés à 1 ou 2 pieds de la terre qui les avait nourris. Les trombes giflaient ces morts dressés, lessivant les chairs marbrées et les hardes gorgées. De l'extrémité des pieds ruisselait un jus saumâtre, comme si les dépouilles se soulageaient sans fin. À ce spectacle, le sire de Vaumacel et ses suivants préférèrent passer leur chemin. Ils poursuivirent leur marche courbée sous les intempéries, les chevaux pataugeant dans des ornières noyées. L'après-midi tirait à sa fin, et la vallée rincée par le mauvais temps sombrait dans un crépuscule précoce. Pourtant, avec le soir, la pluie se fit moins battante. Par moments, lorsqu'elle devenait plus légère, la vue portait davantage. Les reliefs doux des coteaux émergèrent des giboulées. Plus bas, quelques îlots couverts de végétation parsemaient le flot grossi de l'Andoun. L'Omus leur goûtant sur le nez, les voyageurs se dressaient sur leurs étriers et cherchaient un abri où ils auraient pu se sécher et brosser les chevaux. Hélas, une fois dépassé le village aux pendus, plus un toit ne se nichait dans la campagne. Une percée dans les nuées finit par faire briller une éclaircie. Quelques rayons obliques scintillèrent dans les rideaux d'eau et la mer d'or la rivière. Dans cette gloire pluvieuse, resplendit soudain une petite île dont le bord herbu ne se trouvait qu'à un jet de pierre de la rive. C'était à peine plus qu'un îlot, un bras de terre ombragé par un bosquet qui se mirait dans l'onde. Les feuillages trempés miroitèrent telle une rivière de diamants dans l'embellie. Derrière les lignes éblouissantes des gouttières, le sous-bois paraissait presque sec. Le treille allègre d'une alouette y célébrait l'accalmie. À défaut de toit, les trois voyageurs furent tentés par ce couvert. De sa propre initiative, Kell partit sonder le bras de rivière. La lance qu'il plongea dans l'eau n'enfonça guère. Les chevaux ne se mouilleraient qu'aux genoux, et les cavaliers traverseraient à pied sec. Sans plus balancer, les compagnons passèrent à gué. Une atmosphère verte et vivifiante les saisit à l'ombre des arbres. Entre les arcades vivantes des branches, on apercevait le miroitement des flots presque partout à la ronde, sauf dans la partie centrale de l'île où la verdure était plus dense. Quelques gouttières lâchaient des fils d'argent dans un crépitement liquide, mais le soulagement d'échapper à l'averse fut immédiat. Les chevaux s'ébrouèrent, ragaillardis, et les hommes ôtèrent leurs capuchons. L'impression sinistre laissée par les finages mis à sac était restée sur la rive. L'eau peu profonde et la clôture ajourée des troncs dressaient une défense mystérieuse contre l'angoisse et le malheur. Après avoir pris un instant pour souffler, les cavaliers mirent pied à terre afin de desceller et bouchonner les chevaux. L'humeur de Nem s'allégea, et le sire de Vaumacel regagna quelques couleurs. Cette petite île se montrait si hospitalière que sans un mot les voyageurs tombèrent d'accord pour y faire étape. Une fois les bêtes pansées, quelles parties furetaient au cœur du hallier dans l'espoir de trouver un ombrage où leur bivouac fut invisible des rives. Il disparut d'un air affairé derrière la ramée. De son côté, l'écuyer entreprit d'aider le chevalier à retirer l'armure. Lorsqu'il eut délacé le gorgerin, l'espalière et les brassards, le vieux valet d'armes se remit à grogner contre le page. « Qu'est-ce qu'il fourrage encore, le petit fouineur? Ce coin de terre ne fait pas trois arpents !»« Pourvu qu'il ne tombe pas à l'eau !» soupira Edan. « Rappelle-le !» Sitôt que Nem eut donné de la voix, Kell donna signe de vie, mais sa réponse retentit assez lointaine. « Ce n'est pas possible !» grommela l'écuyer. « Ce petit seau est passé sur l'autre rive. » Et il appela de plus belle, ordonnant au page de revenir en vitesse. Comme le temps passait et que le freluquet ne réapparaissait pas, Nem le héla de rechef. « Ça va, j'arrive !» répondit le garçon sur un ton désagréable. Mais sa voix paraissait à peine moins distante. Le chevalier, complètement délivré de son armure, Nem était en train de ranger les pièces du harnois quand le page émergea enfin des feuillages. « Où étais-tu passé ?» l'apostropha le vieux valet d'armes. « Je cherchais un coin où camper. »
Qu'est-ce que tu trafiquais sur l'autre rive? Nous serons très bien ici.
Sur l'autre rive? N'importe quoi. Je n'ai pas repassé la rivière.
Répète-moi ce mensonge et il t'en cuira. Nous t'avons très bien entendu, tu étais parti au diable.
C'est vrai, j'ai pas mal marché, mais c'est que cette île est plus grande qu'il n'y paraît.
Quelle, je vais te frotter les oreilles.
Mais je dis la vérité. Allez voir par vous-même.
D'un geste, le sire de Vaumacel tempéra l'irritation de son écuyer. Le chevalier parcourait des yeux la tenue de son page. Son manteau et son hoqueton étaient trempés, mais ses souliers n'étaient que légèrement crottés et ses chaussettes étaient presque sèches.
« Je n'ai pas vu de pont dans les environs, »
dit Edan.
« As-tu trouvé une barque ?»«
Bien sûr que non. En fait, je n'ai même pas été jusqu'au bout de l'île. »«
Tu mens comme un arracheur de dents !»
s'exaspéra Nem.
« Cette île ne fait pas 100 pas de large. »
Quoi que je dise, c'est toujours la même chose,
regimba le jouvenceau.
Il faudrait que je raconte des histoires pour qu'on me croie.
Allons voir,
trancha le chevalier. Kell approuva d'un air offensé, pendant que Nem secouait la tête avec agacement. Mais, laissant les chevaux derrière eux, les trois compagnons partirent vers l'étroite portion du bosquet où les feuillages masquaient la rivière. Ils se faufilèrent sous la ramée, contournèrent quelques aulnes et merisiers, pour se retrouver rapidement dans un sous-bois éclatant de blancheur, étroitement bordé par l'inflorescence immaculée de la viorne et de l'aubépine. Parfait pour rester inaperçu des deux rives, ce berceau de verdure offrait cependant une aire trop étroite pour y loger toute l'écurie. Kell montra aux deux hommes une brèche dans les arbustes en fleurs, dessinée comme une tonnelle, qui ouvrait sur l'ébauche d'un sentier. Les voyageurs empruntèrent ce corridor végétal qui embaumait l'herbe mouillée et des fragrances délicatement printanières. Au bout de quelques pas, ils débouchaient dans une futaie traversée de raies de soleil. La lumière du soir irisait les longues soies flottantes de quelques arentelles et transformait en brillant les gouttes chues de la ramée. Un peu assourdi par l'épaisseur des feuillages, le murmure de la rivière se trouvait également couvert par le pépiment des oiseaux. L'alouette poussait toujours son gazouillis heureux, mais d'autres chanteurs lui donnaient la réplique. Le rouge-gorge et la grive musicienne emplissaient la ramée de leur cantilène, tandis que les mésanges pipaient un babil primesautier. Des merles, surpris par l'arrivée des intrus, sautillaient sous les fourrés en caquetant des protestations comiques. Le bois où venaient de déboucher les trois compagnons était assez étendu pour loger les montures. Le sentier qui courait devant eux, peut-être une coulée animale, vagabondait au milieu du tapis bleu des jacinthes sauvages. En le suivant sur quelques pas, ils découvrirent qu'il partait bagnaudé dans un vallon peu profond mais assez spacieux. La chanson de l'eau continuait à s'accorder à celle des oiseaux. Mais elle avait pris le ton clairet de source gazouillant sur un nid de galets. Un peu décontenancé par ce recoin secret, le chevalier et son écuyer marquèrent un temps d'arrêt.
« Au moins, il y a la place pour les chevaux »,
observa platement Nem.
« Et ce n'est pas fini !»
le morgua Kell avec condescendance.
« Le bois est plus étendu par là !»
Le godelureau prit les devants et descendit le sentier d'un air conquérant. Bien qu'il ne fût pas très prudent de laisser les bêtes et le bagage sans surveillance, les deux adultes lui emboîtèrent le pas avec une curiosité indolente. Le val où ils descendirent n'était qu'une cuvette à la déclivité imperceptible, mais dont les pentes s'élargissaient devant un vaste espace. La futaie s'y dressait de plus en plus majestueuse. Les arbres s'y rangeaient en colonnade, qui délivrait de fuyantes perspectives. Bientôt, la polyphonie des oiseaux retentit si sonore qu'elle finit par couvrir la rumeur de l'eau.
« Où est passée la rivière ?» marmonna l'écuyer.
« Alors, vous voyez que c'est grand ?»
exulta Kell.
« Ce que nous avons pris pour une île était peut-être une presqu'île prise dans l'arc du méandre, »
supposa le chevalier. Nem cependant restait sceptique,
Le gué que nous avons traversé n'était ni profond ni large, rappela-t-il. C'était un bras secondaire de la rivière. Avec toute la pluie qui est tombée aujourd'hui, le flot du cours principal aurait été beaucoup plus fort.
Chez le vieux valet d'armes, la méfiance affleurait à nouveau.
Cet endroit est bizarre, dit-il. Nous ne devrions pas nous éloigner davantage des chevaux.
Personne cependant, pas même Nem, n'eut la volonté de suivre ce conseil. Le nez en l'air, Kell trottait allègrement en tête. Les deux hommes suivaient plus lentement, avec l'allure indécise des promeneurs qui remettent sans cesse à plus tard le moment de mettre un terme à une partie de plaisir. Au-dessus de leur flânerie, tous les feuillages bruissaient d'agitation, une multitude de passereaux remplissaient la forêt de mélodies concurrentes, des volées de mésanges s'enfuyaient devant les marcheurs pour revenir se percher derrière eux. Des rouges queues, intrépides, venaient parfois les défier d'un bref vol stationnaire, avant d'obliquer en pépiant de dédain. Gobe-mouches, bouvreuils, pinsons et bergeronnettes jetaient des œillades intriguées du haut de la ramée. Accrochés à l'écorce des troncs, parfois la tête en bas, grimpereaux, sittels et verdiers, lorgnaient également les passants. Ces bancs de petits oiseaux étaient devenus si nombreux qu'ils formaient des guirlandes le long des branches, colorées et gracieuses comme les frises enluminées d'un ouvrage. Plus les voyageurs s'enfonçaient dans la futaie, plus ce peuple ailé se faisait audacieux. C'était à peine si les bestioles s'enfuyaient juste avant d'être à portée de bras. Et plus d'une fois, les promeneurs sentirent le souffle d'une aile les frôler.
« Ils sont trop familiers, » murmura Nem. « Pour un peu, ils viendraient nous manger dans la main. »
« Oui, et ce n'est pas la première fois qu'on voit cela, »
jubila Kell.
« Le garçon est dans le vrai, »
reconnut le vieux valet d'armes à regret.
« On ne devrait vraiment pas pousser plus loin. »
Mais ses paroles manquaient de conviction et furent accompagnées par des pépiments qui sonnaient comme un rire mélodieux. Les compagnons se laissèrent porter en avant, envoûtés par le mystère de cette nef sylvestre. Ils finirent par entrevoir un immense dais tendu entre les arbres. Un grand pavillon à trois faîtières avait été dressé à la lisière. La lumière du soir magnifiait les tentures luxueuses de ses courtines et de son chapiteau, tout en étincelant sur les pommes dorées qui sommaient ses mâts. Les portières de tapisserie étaient repliées à l'avant et à l'arrière de la tente, transformant tout le pavillon en un improbable portique ouvert sur la forêt et, au-delà, sur la berge de la rivière mystérieusement réapparue. Au milieu de ce castel de soie s'érigeait une grande chaire délicatement sculpté de motifs floraux et aviaires.
Le campement des aventureux,
s'exclama Nem dans un souffle.
Je n'en jurerai pas, répondit Kell. C'est bien le grand pavillon, mais on ne voit pas les tentes des chevaliers. Et puis, où sont les pages, les chiens et les chevaux, la pie, le jet et le coucou?
C'est un signe, dit doucement le chevalier.
Il est regrettable que nous ayons laissé mon écu avec le bagage. Nous aurions pu vérifier ses couleurs. Nem se passa une main sur les yeux comme s'il essayait de retrouver ses esprits.
« Ce n'est pas normal, » maugréa-t-il. « Je n'ai pas les idées claires, mais ce n'est pas normal. Il n'est pas prudent d'approcher de ce campement. Ce bois est comme l'écho d'un songe. »«
Oui, » s'emballa Kell. « Ça ressemble aux futaies bleues. Une forêt chimérique. »
Le resplendissant nous garde,
s'alarma le vieil écuyer.
Jamais nous n'aurions dû donner la chasse aux aventureux.
Nous n'avons pas le choix, dit rêveusement le sire de Vaumacel.
Je suis lié.
Cette fois, ce fut lui qui prit les devants. Kell ne parut pas mécontent que son seigneur reprît la tête, mais s'empressa de mettre les pas dans les siens. Serrant les poings, Nem résista un moment à l'impulsion de suivre le mouvement.
« C'est de la folie » s'écria-t-il. « Si c'est un recommencement, si on m'oublie encore, je n'ai plus l'âge d'affronter cela.
le visage crispé comme s'il se faisait violence, l'écuyer se détourna à demi et parvint à jeter un coup d'œil au-dessus de son épaule. Mais, en dépit de ses efforts, il ne rassembla pas assez de volonté pour faire plus qu'un pas en arrière. Soudain, sa résolution céda et il se précipita sur les traces de ses compagnons. Abandonné à l'orée de ce bois invraisemblable, le pavillon se déployait encore plus grand que naguère. En gagnant son entrée, les trois marcheurs laissèrent derrière eux le ramage des oiseaux. Une quiétude majestueuse régnait sous le haut ciel de tente. En guise de tapis, une prairie fleurie embaumait l'intérieur. Des alcôves aux voilages légers et des amoncellements de coussins invitaient à la paresse. Mais ces couches douillettes demeuraient inoccupées. En fait, toute la tente était silencieuse et déserte, ou presque déserte. Le coussin qui ornait le haut siège en bois de rose s'étira et bâilla. C'était un énorme matou à la robe de jais qui entr'ouvrit un œil ensommeillé sur les visiteurs, ne les jugea pas très intéressants et se rendormit voluptueusement. Venus du bord de l'eau, quelques libellules aux reflets saphir et émeraude firent irruption dans la tente, voltigèrent un instant autour des visiteurs et ressortirent aussitôt. Dans l'ombre douce des voilages, la vaste tente prenait les dimensions d'un temple voué au nonchaloir. Le chevalier et son écuyer clignirent des yeux comme si le passage du jour déclinant à la pénombre de cet éphémère palais les invitait au sommeil. Seul Kell conserva toute sa vivacité. Et, après s'être assuré qu'il n'y avait personne d'autre dans les lieux, se mit à fureter avec sa curiosité ordinaire. Tout en luttant contre l'engourdissement, Nem contempla un moment la chaire où se prélassait le chat endormi. Le haut siège était entouré par deux meubles décoratifs. À gauche, une console délicate portait un coffret. La cassette, en métal précieux, était travaillée comme un reliquaire. L'or avait été ciselé à la semblance d'une corbeille de roses, mais les rubis enchâssés en guise de fleurs y avaient été taillés en forme de cœur. Kell, qui avait également repéré ce trésor, fit mine de s'en désintéresser en présence de ses aînés. Pourtant, Nem se sentit davantage attiré par le meuble disposé à droite de la chaire. Il s'agissait d'un grand lutrin aux pieds chantournés, sculpté à la manière d'une branche de chèvrefeuille qui supportait un livre ouvert. Sur la blancheur du vélin courait un texte disposé en deux colonnes, mais ce qui capta le regard de l'écuyer fut une vignette joliment enluminée. Elle représentait un petit chevalier qui, bien qu'il fût monté sur son fringant destrier, se trouvait dominé par une monstrueuse ogresse. L'épisode, tiré du roman du Bel Églantier, était célèbre, et n'importe qui en Bromel l'eût reconnu. Il s'agissait du défi de la vieille géante. En le découvrant, le vieil écuyer eut une réaction singulière. Sans mot dire, il hocha la tête d'un air fataliste, puis, haussant une épaule, il s'assit doucement au pied du fauteuil et de l'écritoire. Ayant poussé un soupir résigné, il parut sur le point de s'assoupir. Quant au sire de Vaumacel, il partit lentement de son côté. À l'autre extrémité de la tente, la portière ouverte sur la rive exerçait sur lui une puissante attraction. D'une allure presque somnambule, il traversa le pavillon et en ressortit, suivant la voie montrée par les libellules. Le paysage qui s'offrait à lui avait de quoi fasciner. Quelques fantasmagories dans ce panorama avaient distendu la vallée de l'Andoune jusqu'à de prodigieux horizons. Quoique les coloris pastels du couchant se fussent reflétés dans une onde calme comme un miroir, la rivière avait cru de façon extravagante. Elle était désormais vaste comme un fleuve, comme un estuaire, voire comme une mer intérieure.
Sur cette immensité était disséminé tout un archipel de petites îles boisées, dont la plupart ressemblaient à celles où les trois voyageurs avaient mis le pied. En fait, dans les bosquets les plus proches, on distinguait même, à demi immergés parmi les feuillages, des pavillons en tout point semblables à celui que venait de traverser Edan. Quelques lumières y apparaissaient, modestes et douces comme des veilleuses. Les premières étoiles piquetaient symétriquement la voûte céleste et les abîmes aquatiques. Une sérénité irréelle figeait l'écoulement des eaux et du temps. Un mouvement attira pourtant l'attention du sire de Vaumacel. Un peu plus bas, assise sur la rive au milieu d'un parterre d'arômes et d'iris, une dame exquise tournait le dos au chevalier. Les pieds et la robe baignant dans l'eau, elle se tenait la tête inclinée de côté, dans une attitude qui révélait une nuque délicieuse et peignait une interminable chevelure brune. Edan s'arrêta à quelque distance et, sans mot dire, admira le geste à la fois brusque et voluptueux qui détirait cette toison. Les bras levés dans une posture qui révélait la finesse de sa taille, la belle passait tour à tour le peigne et les doigts dans ses mèches et semblait les dérouler indéfiniment. L'immense crinière flottait, caressante et soyeuse, parcourue des reflets que le soir allumait dans l'onde. Elle dansait, telle une bannière de nuit, dans la lumière déclinante, lustrée de désirs dénoués, violente de se trouver si interminablement démêlée. Chaque passage du peigne, libérant ses fragrances de nard et de sortilège, épaississait le charme. Rivière et paysage se déployaient à proportion de cette toison infinie.